se lo lleve el diablo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo,
juro,
juro muchacho,
palma,
se lo lleve el diablo,
juro,
juro muchacho, se lo lleve el diablo,
malo,
maldito muchacho, se lo lleve el diablo,
malo,
maldito muchacho, se lo lleve el diablo,
juro,
juro muchacho, se lo lleve el diablo.
Yo voy a los montes ligerito corriendo.
Imaginez la scène, l'odeur du café brûlant, la brume des rêves qui s'estompent, le monstre de la nuit qui rejoint l'autre côté du monde, les couleurs changent. Vous y êtes. C'est l'ordre du jour qui commence. Cette jeune femme qui venait d'entrer était comme entourée d'une vapeur, vêtue d'un feu. Tout se décolorait, se glaçait auprès de ce teint rêvé sur un accord parfait de rouillé et de vert. L'ancienne Égypte, une petite fougère inoubliable rampant au mur intérieur d'un très vieux puits, le plus vaste, le plus profond et le plus noir de tous ceux sur lesquels je me suis penchée, à Villeneuve-les-Avignon, dans les ruines d'une ville splendide du XIVe siècle français, aujourd'hui abandonnée aux bohémiens. Ce teint jouait, en se fonçant encore du visage aux mains, sur un rapport de ton fascinant entre le soleil extraordinairement pâle des cheveux en bouquet de chèvrefeuille, la tête se baissait, se relevait, très inoccupée, et le papier qu'on s'était fait donner pour écrire, dans l'intervalle d'une robe si émouvante, peut-être à cet instant que je ne la vois plus. C'était quelque être très jeune, mais de qui ce signe distinctif ne s'imposait cependant pas à première vue, en raison de cette illusion qu'il donnait de se déplacer en plein jour dans la lumière d'une lampe. Je l'avais déjà vu pénétrer deux ou trois fois dans ce lieu. Il m'avait à chaque fois été annoncé, avant de s'offrir à mon regard, par je ne sais quel mouvement de saisissement d'épaule à épaule ondulant jusqu'à moi à travers cette salle de café depuis la porte. Ce mouvement, dans la mesure même où, agitant une assistance vulgaire, il prend très vite un caractère hostile, que ce soit dans la vie ou dans l'art, m'a toujours averti de la présence du beau. Et je puis bien dire qu'à cette place, le 29 mai 1934, cette femme était scandaleusement belle. Une telle certitude, pour moi assez exaltante à cette époque par elle-même, risquait d'ailleurs fort de m'obséder durant le temps qui s'écoulait entre ces apparitions réelles, puisqu'une intuition très vague, dès les premiers instants, m'avait permis d'envisager que le destin de cette jeune femme pût un jour, et si faiblement que ce fût, entrer en composition avec le mien. Je venais d'écrire quelques jours plus tôt le texte inaugural de ce livre, texte qui rend assez bien compte de mes dispositions mentales, affectives d'alors. Besoin de concilier l'idée de l'amour unique et sa négation plus ou moins fatale dans le cadre social actuel. Souci de prouver qu'une solution plus que suffisante, nettement excédente des problèmes vitaux, peut être toujours attendue de l'abandon des voies logiques ordinaires. Je n'ai jamais cessé de croire que l'amour, entre tous les états par lesquels l'homme peut passer, est le plus grand pourvoyeur en matière de solutions de ce genre, tout en étant, lui-même, le lieu idéal de jonction, de fusion de ces solutions. Les hommes désespèrent stupidement de l'amour. J'en ai désespéré. Ils vivent asservis à cette idée que l'amour est toujours derrière eux, jamais devant eux. Les siècles passés, le mensonge de l'oubli à 20 ans. Ils supportent, ils s'aguerrissent à admettre surtout que l'amour ne soit pas pour eux, avec son cortège de clarté, ce regard sur le monde qui est fait de tous les yeux de devin. Ils boitent de souvenirs fallacieux, auquel ils vont jusqu'à prêter l'origine d'une chute immémoriale, pour ne pas se trouver trop coupable. Et pourtant, pour chacun, la promesse de toute heure à venir contient tout le secret de la vie, en puissance de se révéler un jour, occasionnellement, dans un autre être.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, He threw me away. He laughed at my sins, in His arms I must stay. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for, do not tempt me. Her skin is white, and I'm light as the sun, so holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man, how did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave the way I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. Fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too, and spoken for, do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for, do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to say. Love me, O Lord, He threw me away. He laughed at my sins, in His arms I must stay. We write, that's all right. I'm Mrs. Smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well.
Bonjour, vous êtes sur Studio Zef, vous écoutez l'ordre du jour, et pour commencer cette semaine, je vous ai proposé une lecture d'un livre d'André Breton qui s'appelle L'amour fou. Écrit en 1937, enfin publié en 1937, c'est un livre qui est une sorte de recherche sur l'amour prémonitoire, puisqu'André Breton y collecte, y relie toutes les coïncidences qui lui font rencontrer sa future femme. Et donc on y croise l'activité de l'inconscient, la survie du désir face à la société, le désir fou, et en quelque sorte la conception surréaliste du couple par André Breton. André Breton qui dira à sa fille « Je vous souhaite d'être follement aimée » et sa fille s'appelait Aube. Alors je vous souhaite un bon réveil sur Studio Zef. Il est tôt, il est l'heure de lire le journal. Alors aujourd'hui, pour cette semaine, je vous propose le journal Talweg, dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière. Mais là, cette fois-ci, je vous propose le numéro 2, puisque je vous avais raconté que Talweg, c'est un journal des éditions Pétrole qui se fabrique à chaque numéro de manière complètement différente. La semaine dernière, on voyait des grands papiers pliés qui pouvaient se déplier en territoire non conquis et qui pouvaient s'étendre sur des posters qui devenaient immenses. Là, je vous propose plutôt le numéro 2. Alors, le numéro 2 qui prend la forme, au départ, un peu plus classique, d'une sorte de cahier A4. Le numéro 2 s'appelle « La périphérie ». Il a été publié en 2015. Et en fait, c'est un objet assez étrange parce que donc il est plutôt dans les bleus et blancs. Il est assez monochrome. Je crois qu'il n'y a pas du tout d'autres couleurs que ce bleu et ce blanc. Et puis, en fait, au fur et à mesure où on tourne les pages, on a l'impression d'avoir déjà lu ce qu'on vient de lire. L'édito commence la première page, et puis on tourne la page, l'édito continue cette première page, on a encore un édito, et puis petit à petit, on va entrer dans l'objet du livre, avec, donc là, c'est beaucoup de textes littéraires, de poésie, de photographies pleine page souvent, de poèmes qui vont être complètement déstructurés, notamment dans leur mise en page, et qui peuvent s'étendre sur une dizaine, une quinzaine de pages. Et puis, pareil, à la fin, on se retrouve avec une quinzaine de pages qui se ressemblent, voire même qui sont exactement les mêmes, qui sont notamment l'édito et puis le quatrième de couverture. Et en fait, c'est une façon de relier tout à fait particulière, puisque donc c'est une reliure en dos collé et qui a été renversée ensuite. Donc il n'y a pas de couverture en carton, elle a été inversée. Et c'est ce qui fait que c'est un livre qui semble se lire à l'infini. On peut tourner indéfiniment les pages. Alors, je peux vous lire un extrait de l'édito. Donc ça s'appelle « Le premier monde ». À l'heure où nous bouclons le second numéro de Talweg, l'aube semble blanchir l'horizon. Une transition de la nuit vers le jour, discrète, faisant de nous les premiers spectateurs du presque invisible. Devant quelque chose qui ne se voit pas, prendre 5 minutes pour s'y arrêter n'est pas à exclure. L'aube, sur laquelle nos ordinateurs et nos cahiers se ferment, commence à dire, sans aucun mot encore, sorte de longue phrase composée de respirations juxtaposées. Balayer des yeux ce temps entre nous donne à comprendre le monde par ses masses et ses contours, à la lisière des choses. Des ombres qui avancent, ni d'un bloc, ni selon un processus unique, mais doucement, à la fois trouble et constante. Un peu plus loin. Les gens n'ont pas de centre, ne peut être une statistique. Comme tout le monde, n'existe pas. Personne ne pense ni n'agit comme son voisin, simplement parce que personne n'appartient à la même histoire. Être ensemble, suivre un schéma plus complexe. Concrètement, il y a partout du flou. Nous sommes là, dans le paysage. Notre marginalité dépend du degré d'oblique par lequel nous vivons. Agissons, disons, regardons le monde. Elle se situe vis-à-vis de quoi nous sommes marqués en profondeur. Voilà, donc ensuite, ça c'est l'édito, comme je vous le disais, qui se répète une dizaine de fois et qui nous fait perdre le début et le fil, en quelque sorte, de cette revue infinie. Le papier est très doux. L'impression est vraiment de qualité, et puis donc c'est un livre sans début ni fin et qui pousse un peu cet objet à son paroxysme avec cette reliure spécifique dont je vous ai parlé. On peut tomber sur des très belles photos de panneaux publicitaires abandonnés au pied de vignes en friche, paysages de Grèce semble-t-il, mais ce sont peut-être des paysages américains sûrement. Voilà pour ce numéro 2 de la revue Talweg. Je ne vous présenterai pas les numéros suivants, mais vous pouvez les retrouver et vous émerveiller de ces objets toujours étonnants par les éditions Pétrole. Thank you. C'est l'ordre du jour, il est l'heure de la carte postale, un courrier intérieur par Olivier.
Je vous envoie ce que je vois de ma fenêtre. 14 mai. Tu longes tes lignes d'air sous les yeux de la lune blonde, disque enrayé. Une musique de couleur à en perdre le sommeil, des troupes d'âmes sans œuvre alimentent les lueurs. La fumée des nuits te caresse les joues dans le grand appariement des choses. Des voix cheminent dans l'espace strié de tes pas. Claquement mat des portières. Froissement de plastique et de verre éclaté. Ici, l'on fragmente les formes et les murs nous épient. Des bras pétrissent le pain neuf d'un autre matin. La ville remue un peu. Tu gravis son film, gris, où chacun s'excitait encore hier. Tu deviens ce champ intérieur de l'été électrique où sont partis les arbres. Ô vigueur future, rivière oubliée, moteur sacré sous l'épiphanie des rues. Je t'embrasse.
Bonjour, vous êtes sur Studio Zef, c'est l'ordre du jour. Et je vous propose maintenant d'écouter des sons glanés par le monde. On commence par une plage mouillée en Angleterre, c'est Alban, à Portishead.
Ce matin, me voilà à Portishead, comme le nom du groupe de musique qui vient d'ici d'ailleurs, ou de Bristol. Portishead, c'est à 30 minutes de Bristol, la campagne, enfin non, sur le bord de l'eau. En face, il y a le Pays de Galles. On voit les collines galloises. Je suis sur le bord de l'eau. En face de moi, il y a le pont qui relie l'Angleterre au Pays de Galles. C'est un grand estuaire, très boueux, donc l'eau est jamais transparente, c'est toujours très marron, avec des petites risettes, un peu de vent, pas trop fort. C'est très beau aujourd'hui. Il y a un grand soleil, des nuages bien formés qui laissent voir correctement le ciel bleu, mais qui mettent un peu d'ambiance, au lieu d'avoir qu'un ciel complètement tout bleu. C'est la marée basse, je suis en train de dessiner, profiter du vent, du beau temps, des gens qui passent. Derrière moi, il y a tous les nouveaux quartiers qui dessinent la marina. Et devant moi, le port est vide, il n'y a que deux bateaux. On est dans une réserve naturelle, enfin à ma droite. À gauche, c'est toute la marina, où il y a aujourd'hui maintenant que des gros bateaux. Pardon pour le vent. Il a décidé de se lever pile quand j'ai décidé de venir raconter un peu ce que je voyais à travers. Ce que je voyais en face de moi. C'est une atmosphère assez spéciale aussi. Non, pas spéciale, pourquoi spéciale ? L'estuaire est très 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 vaste. Faut s'imaginer que c'est celui qui dessine la carte du Royaume-Uni. C'est-à-dire la pointe qui ouvre la distance entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Il y a 2-3 ponts qui relient tout ce pays. Tous très grands, assez beaux, très fins, qui suivent la colline arrière.
Quel est le mystère d'un feu de bois ? C'est la question que pose Gabriel.
C'est lundi soir, on est au coin du feu. Il commence à faire super froid là. Et ce petit bruit qui crépite là, c'est un vrai petit bonheur. Le bois est encore humide, ça claque. Il crépite. Et il sort toute son eau avec cette chaleur là qui tombe sur lui. Il sait plus quoi faire. Il est en train de se faire complètement assaillir par les flammes. Le feu démarre et me réchauffe. C'est un vrai petit bonheur ça quand même. Là on l'entend bien là. On dirait que toute l'eau est en train de sortir. C'est une cocotte minute de bois. Allez, encore un petit peu.
nécessaire des discussions enfantines. Et toi, la nuit, t'en penses quoi?
Je trouve qu'elle est bien, parce que comme ça on peut se reposer et se préparer au lendemain pour l'école ou pour être en forme si on va faire quelque chose de spécial. Par exemple, si tu vas quelque part, si tu vas visiter quelque chose, si tu vas, par exemple, tester un nouveau vélo, tester quelque chose de nouveau, tu peux faire plein de choses. Et si tu as du repos, si tu as du repos, quand tu dors, tu peux être en pleine forme. Et comme ça, tu ne pourras pas rater ce que tu voulais faire en dormant parce que tu n'avais pas dormi et tu avais fait une nuit blanche. Et si demain, tu n'avais rien à faire et que tu voulais rien faire, tu peux faire des nuits blanches et t'amuser avec tes copains ou rester devant la télé toute la nuit.
Et alors, la nuit, est-ce que tu préfères dormir ou est-ce que tu préfères être réveillée?
Je préfère être réveillée. Parce que comme ça, je peux passer plus de temps en train de découvrir des choses. Cette nuit, je ne dors pas, par exemple. Je pourrais le tester et bien comprendre comment ça fonctionne.
Les choses ne cessent de se bâtir, mais en attendant, c'est l'heure de la chronique de chantier, par Nicolas.
Dimanche de l'Oculi. La pluie a pénétré nos habits, le gel a durci le lourd tissu de nos coules, figé nos barbes, raidi nos membres. La boue a maculé nos mains, nos pieds et nos visages. Le vent nous a recouverts de sable. Le mouvement de la marche ne balance plus les plis glacés sur nos corps décharnés. Emportés dans le crépuscule blafard d'un hiver de Mistral, précédés de nos ombres démesurées, nous apparaissons tels trois saints de pierre. Nous marchons depuis des semaines. Par la vallée du Rhône, nous atteignons Avignon, puis Notre-Dame de Floriel, dans le diocèse de Fréjus, sur les terres de mon cousin Raymond Béranger, comte de Barcelone. En ce 5 mars 1161, 30e année de mon arrivée à Cîteaux, je suis chargé à nouveau de construire un monastère. J'en ai reçu l'ordre de notre abbé. Paragraphe introductif du roman Les pierres sauvages de Fernand Pinet. Le rêve commence. J'attendrai, je recevrai. Plus de 20 années de vision fugitive, bien rangées dans ma mémoire, sont là. Je les sens comme une monture vibrante sous moi. Saint-Benoît, 21e jour de mars. De l'ensemble au détail, du matériel à l'immatériel, du défini à l'indéfini, mes réflexions et mes sensations provoquent l'action avec méthode. Mon cerveau et mon cœur iront également des transes au prosaïsme sans que je puisse exactement les diriger. Pour l'instant, mes premières préoccupations sont l'emplacement, la forme générale, l'orientation. Un grave obstacle, l'implantation a été définie, avant notre arrivée, par le commencement des fondements du dortoir des convers. Or, je veux modifier la direction de l'axe de l'église pour l'orienter exactement au levant. Je fus tenté tout d'abord par l'abandon des travaux entrepris. Aujourd'hui, je m'y refuse, pour la peine et le temps qui seraient perdus. Nous retrouverons, dans la composition, l'angle bâtard. Cette anomalie de base sera-t-elle gênante? J'hésite encore pour me prononcer. Si j'étais arrivé au début, il est certain que je n'aurais pas tracé volontairement un angle ouvert à l'emplacement du cloître futur.
Un dialogue avec la nuit, c'est « Nous parlons votre langue » par Olivier.
Hymne à la nuit. Quel être vivant, doué de sens, qui n'aime plus que tous les merveilleux phénomènes de l'espace répandus autour de lui, la lumière qui réjouit tout, avec ses couleurs, ses rayons et ses ondes, sa douce omniprésence du jour éveillant le monde, comme si elle était l'âme la plus intime de la vie, le monde gigantesque des astres infatigables, la respire et nage en dansant dans son flot d'azur. Et la pierre étincelante, en éternel repos, et la plante, songeuse et suceuse, et l'animal sauvage, brûlant et multiforme, la respirent aussi. Mais surtout, le magnifique étranger, aux yeux parlants, à la marche flottante, aux lèvres tendrement fermées, riches de sons. Tel un roi de la nature terrestre, elle appelle chaque force à d'innombrables métamorphoses. Nous, aidez-nous d'infinies alliances, suspend son image céleste au cou de tout être terrestre. Sa présence seule révèle la splendeur merveilleuse des royaumes du monde. Je m'en détourne et descends vers la sainte, l'inexprimable, la mystérieuse nuit. Le monde est loin, enfoui dans un profond abîme. Sa place est lugubre et solitaire. Une mélancolie profonde souffle dans les cordes de ma poitrine. Je veux tomber en gouttes de rosée et me mélanger à la cendre. Lointain du souvenir, désir de la jeunesse, rêve de l'enfance, joie brève et vains espoirs de l'existence tout entière, s'avance en vêtements gris comme des brumes du soir après le coucher du soleil. Dans d'autres espaces, la lumière a planté les tentes joyeuses. Et si elle n'allait jamais revenir vers ses enfants qui l'attendent avec la foi de l'innocence? Qu'est-ce donc qui soudain me coule sous le cœur avec ses pressentiments et avale la molle douceur de l'air mélancolique? As-tu, toi aussi, nuit obscure, quelque plaisir à notre présence? Que tiens-tu sous ton manteau qui me va, invisible et fortement à l'âme? Un baume précieux, des gouttes de ta main, du bouquet de pavots. Tu relèves les lourdes ailes de nos pensées. Nous nous sentons saisis d'un mouvement obscur et inexprimable. Je vois un visage sévère, joyeusement effrayé. Il s'incline vers moi avec douceur et ferveur et me montre, au milieu de boucles infiniment mêlées, la chère jeunesse de ma mère. Comme la lumière me paraît pauvre et infantile maintenant, quelle réjouissance et bénédiction dans la Dieu du jour. Et donc, pour cette seule raison, parce que la nuit détourne de toi ceux qui te servent, tu as semé dans les infinis de l'espace les sphères lumineuses pour faire savoir ta toute-puissance, ton retour, dans les temps de ton éloignement. Plus céleste que ces étoiles scintillantes, nous semblent les yeux infinis que la nuit a ouverts en nous. Il voit plus loin que les plus pâles de ces armées innombrables. Sans requérir de lumière, il perce les profondeurs d'un cœur aimant, ce qui emplit d'une indicible volupté un espace supérieur encore. Loue la reine du monde, la haute messagère des mondes saints, la prêtresse de l'amour bienheureux, elle t'envoie à moi, tendre aimé, charmant soleil de la nuit. Maintenant je veille, car je suis tien et mien. Tu m'as annoncé que la nuit était vie, tu m'as fait homme. Dévore mon corps au feu d'esprit, que je mêle mon être aérien plus intimement à toi, et que dure éternellement notre nuit de noces.
Le soleil est levé, quelque chose a changé, l'ordre du jour est placé. Cette semaine sera magnifique, je vous le promets. Thank you.
Thank you.